1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.
Christelle Bernat, vous êtes maître de conférence à l'Institut protestant de théologie à la faculté de Montpellier. Vous enseignez l'histoire du christianisme moderne. 2017, est-ce bien l'année Luther pour vous ?
Non, 2017 ne commémore pas un homme, mais plutôt la mise en marche d'une pensée réformatrice. Il faut bien rappeler, peut-être en amorce de ce cycle, que ce propos luthérocentré ne doit pas faire oublier, que nous célébrons en premier lieu la Réformation. Donc il y aura nécessairement un petit peu un effet de loupe qui appelle à une certaine vigilance. Avec Luther se déploie une pensée contestataire, mais au fond qu'il n'est ni le seul, ni le premier à engager.
Quels seraient ces préalables, selon vous, Christelle Bernat ?
Eh bien, l'Église établie, c'est-à-dire l'Église catholique, apostolique et romaine, depuis laquelle parle d'abord le jeune Luther avant d'en être excommunié, a connu plusieurs mouvements réformistes internes, peu ou prou dissidents d'ailleurs, avant que Luther lui-même ne s'exprime. Que l'on songe en particulier à Bernard de Clairvaux, maître spirituel de l'ordre cistercien, qui, dès le début du XIIe siècle, déclenche ce qu'on a appelé un beau réveil de la chrétienté. Au fond, ce moine de Cîteaux travaille très tôt à réorienter la foi des fidèles sur les souffrances du Christ, à l'aimer pour son sacrifice rédempteur, sans se limiter en quelque sorte à l'adorer pour sa toute-puissance. Saint Bernard, il entreprend d'enseigner le Christ seul et considère que Jésus seul est une hostie, dit-il, capable de satisfaire à la justice divine. Donc, dès le XIIe siècle, il considère qu'il est à lui seul une justice suffisante. Et ce même Bernard insiste notamment sur un thème central, qui nous occupera ultérieurement, fondamental pour le luthéranisme, il insiste sur la prédominance de la grâce. Et il défend, entre autres, que les mérites de l'homme n'ont nulle part au salut. Au fond, dès le XIIe siècle, à la question « qu'est-ce qui sauve ?», Bernard de Clairvaux répond déjà « c'est la grâce ». Et c'est, comme l'a souligné en son temps Émile Guillaume Léonard, Luther et ses émules n'auront pas d'autre doctrine. C'est là, pour nous, me semble-t-il, un jalon majeur, en tout cas, à souligner dans l'histoire de la réforme de la chrétienté, sans oublier non plus que Bernard de Clairvaux a tenté, lui aussi, d'alléger la lourde institution ecclésiastique à l'appui d'un traité, notamment contre l'envahissante monarchie du Saint-Siège. Et c'est là une initiative qui a fait, selon ce même historien, de Saint Bernard le seul véritable prédécesseur de Luther.
Suite à Bernard de Clairvaux, quel serait le second mouvement ?
On peut considérer que parmi les prémices spirituelles de la Réforme, il nous faut aussi ajouter le valdéisme. Le valdéisme, c'est l'un des plus anciens mouvements hétérodoxes, animé à la fin du XIIe siècle par Pierre Valdès ou Vaudès, qui forme encore à la fin du Moyen-Âge de très nombreuses communautés, malgré les coups répétés de l'Inquisition durant tout le XIVe siècle, et malgré une répression impitoyable jusqu'au XVIe, date à laquelle d'ailleurs les Vaudois rallient la Réforme à l'occasion du synode de Champforan en 1532. Ces Vaudois nous intéressent et peuvent être considérés comme des précurseurs dans la mesure où, face aux richesses de l'Église établie, ils prêchaient sur la route la pauvreté absolue et surtout ils promeuvent les évangiles. Et ces Vaudois furent aussi parmi les tout premiers à traduire les Écritures en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue entendue par le peuple. En l'occurrence, ils traduisirent les Écritures en provençal. Et cette propagation des écritures en langue vulgaire débute donc non pas au XVIe siècle avec Luther, mais dès 1180. Donc là, c'est très, très intéressant pour nous pour saisir un petit peu justement ces préalables. Ces Vaudois vont aussi condamner la corruption de l'Église et rejeter la doctrine des indulgences, rejeter le purgatoire, la vénération de la Vierge, des saints, autant de sujets qui sont ensuite repris et très importants aussi dans la critique luthérienne. Ces Vaudois se considéraient comme les véritables héritiers légitimes de la mission apostolique et condamnaient en particulier la mémoire du pape Sylvestre à qui l'empereur Constantin fit au au IVe siècle sa donation, marquant pour les Vaudois précisément le début de la décadence spirituelle du catholicisme romain, englué donc dans l'exercice d'un pouvoir de plus en plus temporel, tandis que sa mission première était tout entière spirituelle. Cet acte, cette donation de Constantin, c'est l'acte par lequel l'empereur, au fond, donne l'imperium, c'est-à-dire un pouvoir absolu de l'évêque de Rome sur les églises, à la fois d'Orient et d'Occident, et qui marque, selon eux, justement le début d'une décadence.
Bernard de Clairvaux, Pierre Valdot, encore d'autres précurseurs de la Réforme ?
Tout à fait, vous avez absolument raison. Il faut déployer cette image d'un Luther, comme nous y a invité Lucien Febvre, historien des annales avec Marc Bloch, qui nous invitait très tôt dans ses leçons du Collège de France, précisément à considérer Luther, non pas comme un portrait figé, en plan américain, mais à bien vérifier quelque part l'arrière-plan et le décor. Et ne serait-ce que pour comprendre précisément ce cadre politique, diplomatique, économique, social, les enjeux en quelque sorte dans lesquels évolue Luther. Et Luther n'a pas formulé ses thèses en 1517 tout seul. Il est en effet aussi l'héritier de deux grands courants réformistes. D'une part, de la pensée wycliffite, qui a été considérée par certains comme l'essence de la pensée réformatrice, mais aussi, d'autre part, du hussisme. Le hussisme qui ouvre la porte à une autonomisation des communautés chrétiennes vis-à-vis de Rome et de la hiérarchie traditionnelle. Donc, dès le XIVe siècle, on avance aussi, nous, progressivement, John Wycliffe, ce théologien d'Oxford, pose un ensemble de principes qui en font un véritable précurseur de la Réforme. Et je crois qu'il est important de s'arrêter un petit moment, justement, sur ce personnage dont la théologie n'a cessé par la suite de travailler les rangs réformateurs. Il est le penseur, peut-on dire, de la théorie de la suprématie civile sur l'Église. Wycliffe commence donc par formuler une critique énergique contre l'Église romaine, une critique qui appelle ni plus ni moins à l'anéantissement des prétentions du Saint-Siège et au fond à une forme de révolte contre l'Église riche et puissante. Et c'est Francis Rapp qui a parfaitement identifié les caractéristiques de cette pensée novatrice, qui s'en prend tour à tour à la scolastique. Un terme un peu barbare, mais qui est cette façon un peu mécanique de pratiquer l'exégèse biblique, et il s'en prend aussi à la hiérarchie ecclésiastique. Il en vient très tôt, John Wycliffe, à dissocier deux choses qui seront reprises aussi ultérieurement par Luther, très présentes dans son passé, c'est-à-dire qu'il en vient à dissocier l'Église visible d'avec l'Église invisible. La première, qui est établie et dominante, est tenue par Wycliffe pour subalterne, dans l'économie du salut en tout cas, tandis que prime la seconde, l'Église invisible, qui est selon lui constituée de l'assemblée des prédestinés, c'est-à-dire qui désigne les chrétiens en état de grâce. Et Wycliffe est aussi l'un des premiers à affirmer que Dieu exerce son droit sans médiation du pape. Du coup, cela signifie que ni les souverains, ni les fidèles ne doivent s'en remettre au pape, mais à Dieu seul. Et il va rédiger un ensemble de traités très importants, en particulier dans son De Ecclesia en 1378. Il va définir cette Église qu'il considère non à travers ou à partir de ses cadres dirigeants, mais bien comme l'assemblée des croyants prédestinés. Et Wycliffe affirme que l'Église est inutile, ce qui est très fort à l'époque, qui va avoir une résonance importante, qui va lui coûter en quelque sorte sa crédibilité, et à tout le moins il la considère comme secondaire. Sa volonté, elle est, et en ce sens Luther en est l'héritier, elle est d'établir une immédiateté avec Dieu. Comme l'a souligné Liliane Crété, chez Wycliffe, le prédestiné n'a pas besoin de l'intervention d'une église hiérarchique pour être sauvé. Bien au contraire. Donc il va confiner en quelque sorte l'Église visible dans des fonctions subordonnées, d'une part parce que le sort de chaque homme est fixé de façon irrévocable, et d'autre part parce que le discernement précisément des justes et des damnés lui échappe totalement. Donc selon Wycliffe, cette Église visible, c'est-à-dire l'Église terrestre, tangible, se limite simplement à diffuser la grâce qui est incluse dans les Écritures et administrer en quelque sorte les sacrements. Mais pour être peut-être un petit peu plus complète, il faut aussi penser à sa critique, une critique globale qui déborde la critique de l'Église institutionnelle pour s'étendre aussi à la critique des sacrements. Pourquoi ? Parce que Wycliffe est réaliste, c'est-à-dire qu'il rejette en quelque sorte la doctrine traditionnelle de l'Eucharistie. La transsubstantiation lui apparaît en effet comme un non-sens. C'est-à-dire qu'il explique que l'hostie consacrée reste une hostie. Le Christ, certes, y est présent, mais spirituellement dans la communion, et le Sauveur ne se donne qu'aux prédestinés. Donc, autrement dit, Wycliffe est le premier à considérer que le pain et le vin ne sont pas changés par la consécration. Il n'y a pas de changement de substance, comme le postule la transsubstantiation. Non, l'hostie n'est pas le Christ, dit Wycliffe, il n'est que le signe efficace. Donc, il s'agit là d'une présence spirituelle du Christ, ce que ne dira pas d'ailleurs Luther, mais néanmoins, il critiquera, il se rejoindra sur cette critique de la transsubstantiation. Et c'est cette contestation de la messe en particulier, peut-être plus encore que l'importance accordée à l'autorité des Écritures, sur laquelle on va s'attarder un peu, qui permet de qualifier, selon Liliane Crété, de qualifier Wycliffe de pré-réformateur. Et on peut ajouter, concernant ce théologien d'Oxford, qu'il considère que l'Église visible a le devoir de mettre les livres saints à la disposition des fidèles. Cela veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire une nouvelle fois qu'il s'agit de proposer les Écritures dans la langue entendue par les paroissiens, ce qui revient à considérer les traductions indispensables et d'un autre côté à tenir les commentaires pour tout à fait secondaires.
Merci Christelle Bernat.
Merci à vous.
Émission produite par FM+, 91 FM à Montpellier.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.